Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans l'émission Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Viens sonder l'intérieur et l'extérieur de vos vies en sons, en mots et en notes. Et si tout ceci n'était qu'une suite de rencontres, des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va. J'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on me dirait, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. »
Sous un gouvernement qui emprisonne un seul être injustement, la juste place du juste est aussi la prison. La place idoine aujourd'hui, la seule place que le Massachusetts ait fournie à ses esprits les plus libres et les moins serviles, ce sont ses prisons, pour être rejetés et enfermés hors de l'État par lui-même, car ils s'en sont déjà retirés par leurs principes. C'est là que l'esclave fugitif, que le prisonnier mexicain en liberté conditionnelle, que l'Indien venu plaider les torts subis par sa race, les trouveront. En ce lieu séparé, plus libre et plus honorable, où l'État situe ceux qui ne sont pas avec lui, mais contre lui. La seule demeure d'un État esclave où l'homme libre puisse résider avec honneur. Et s'il en est pour croire que leur influence s'y dissipera, que leur voix n'agacera plus l'oreille de l'État, qu'ils ne seront plus des ennemis dans ses murs, ils ignorent combien la vérité est plus forte que l'erreur, ni combien supérieure dans le combat contre l'injustice, par l'éloquence et l'efficacité, est celui qui a un peu souffert dans sa chair. Jetez votre vote. Pas un simple bout de papier, mais toute votre influence. Une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est du reste plus une minorité, mais elle devient irrésistible quand elle la bloque de tout son poids. Si l'alternative était de mettre tous les justes en prison ou renoncer à la guerre et à l'esclavage, l'État ne balancerait pas dans son choix. Si un millier d'hommes refusaient de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une mesure violente et sanguinaire, comme le fait de les payer et permettre par là à l'État de commettre la violence et de verser le sang innocent. Telle est en fait la définition d'une révolution paisible, si semblable chose est possible. Si le percepteur ou tout autre fonctionnaire me demande « Mais que voulez-vous que je fasse ?» Ma réponse est « Si vous voulez vraiment faire quelque chose, démissionnez. » Une fois que le sujet a refusé son allégeance et que le fonctionnaire a démissionné, la révolution est accomplie. Mais à supposer même que le sang coule, n'y a-t-il pas une manière d'effusion de sang quand la conscience est blessée? À travers cette blessure, ce sont la virilité réelle et l'immortalité d'un homme qui s'échappe et le mène à une mort éternelle. Tel est le sang que je vois couler aujourd'hui. J'ai envisagé l'emprisonnement du hors-la-loi plutôt que la confiscation de ses biens, bien que les deux choses soient équivalentes. Parce que ceux qui défendent le droit le plus pur et qui sont en conséquence les plus dangereux dans un État corrompu n'ont le plus souvent pas pris le temps d'accumuler des biens. L'État leur rend un service relativement peu important et un léger impôt ne peut que leur sembler exorbitant, surtout s'ils sont obligés de le gagner tout exprès par un travail manuel. S'il existait un être qui vécut entièrement sans employer d'argent, l'État lui-même hésiterait à en exiger de lui. Mais le riche, et il ne s'agit pas de faire de comparaison haineuse, est toujours vendu à l'institution qui fait sa richesse. On peut dire dans l'absolu que plus il a d'argent, moins il a de vertu, car l'argent s'interpose entre un homme et ses objets et les lui obtient. Et ce ne fut certainement pas une grande vertu de le gagner. Il dissuade de poser de nombreuses questions auxquelles le riche aurait sinon l'obligation de répondre, tandis que la seule nouvelle question qu'il pose est celle-ci, difficile mais superflue, comment le dépenser ? Ainsi, son sol moral se dérobe-t-il sous ses pas ? La faculté de vivre diminue en proportion de l'accroissement des prétendus moyens. Le mieux qu'un homme puisse faire pour sa culture lorsqu'il est riche, c'est de s'efforcer d'accomplir les projets qu'il avait pauvres. Quand je converse avec les plus libres de mes voisins, je note que malgré tout ce qu'ils peuvent dire de l'importance et du sérieux de la question, de leur souci de la tranquillité publique, la question se résume à ceci. Ils ne peuvent se passer de la protection du gouvernement actuel et redoutent les conséquences de la désobéissance sur leurs biens et leurs familles. Pour ma part, je n'aimerais pas à croire que je m'en remets parfois à la protection de l'État. Mais si je réfute l'autorité de l'État lorsqu'il présente sa feuille d'impôt, il ne tardera pas à prendre et à détruire tous mes biens, à me harasser sans fin, moi et mes enfants. Cela est chose pénible. Cela interdit à un homme de vivre honnêtement et confortablement à la fois, du point de vue des apparences. Il ne vaudra pas la peine qu'il accumule des biens, il ne manquerait pas de les perdre. Il faut prendre une location ou un refuge quelque part, cultiver une petite récolte et se hâter de la manger. Il faut vivre en autarcie, ne dépendre que de soi, être toujours prêt à lever le camp sans avoir beaucoup à emporter.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne.
emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Une chose m'étonne prodigieusement, j'oserais dire qu'elle me stupéfie, c'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consent à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs, pour voter en faveur de quelqu'un ou de quelque chose. Quand on réfléchit un seul instant, ce surprenant phénomène n'est-il pas fait pour dérouter les philosophies les plus subtiles et confondre la raison ? Où est-il le Balzac qui nous donnera la physiologie de l'électeur moderne ? Et le Charcot qui nous expliquera l'anatomie et les mentalités de cet incurable dément ? Nous l'attendons. Je comprends qu'un escroc trouve toujours des actionnaires, la censure des défenseurs, l'opéra comique des dilettanti, M. Carnot des peintres qui célèbrent sa triomphale et rigide entrée dans une cité languedocienne. Je comprends M. Chantavoine s'obstinant à chercher des rimes, je comprends tout. Mais qu'un député, ou un sénateur, ou un président de République, ou n'importe lequel parmi tous les étranges farceurs qui réclament une fonction élective, quelle qu'elle soit, trouve un électeur, c'est-à-dire l'être irrêvé, le martyr improbable qui vous nourrit de son pain, vous vêt de sa laine, vous engraisse de sa chair, vous enrichit de son argent, avec la seule perspective de recevoir en échange de ses prodigalités des coups de trique sur la nuque, des coups de pied au derrière, quand ce n'est pas des coups de fusil dans la poitrine. En vérité, cela dépasse les notions déjà pas mal pessimistes que je m'étais faites jusqu'ici de la sottise humaine en général et de la sottise française en particulier, notre chère et immortelle sottise, ô Chauvin. Il est bien entendu que je parle ici de l'électeur averti, convaincu, de l'électeur théoricien, de celui qui s'imagine, le pauvre diable, faire acte de citoyen libre, étaler sa souveraineté, exprimer ses opinions, imposer, ô folie admirable et déconcertante, des programmes politiques et des revendications sociales, et non point de l'électeur qui la connaît et qui s'en moque, de celui qui ne voit dans les résultats de sa toute-puissance qu'une rigolade à la charcuterie monarchiste ou une ribote au vin républicain. Sa souveraineté à celui-là, c'est de se pocharder aux frais du suffrage universel. Il est dans le vrai, car cela seul lui importe, et il n'a cure du reste. Il sait ce qu'il fait. Mais les autres ? Oui, les autres, les sérieux, les austères, les peuples souverains, ceux-là qui sentent une ivresse les gagner lorsqu'ils se regardent et se disent « Je suis un électeur, rien ne se fait que par moi, je suis la base de la société moderne. Par ma volonté, Floch fait des lois auxquelles sont astreints 36 millions d'hommes, et Baudry d'Asson aussi, et Pierre Alippe également. Comment y en a-t-il encore de cet acabit ? Comment ? Si entêtés, si orgueilleux, si paradoxaux qu'ils soient, n'ont-ils pas été depuis longtemps découragés et honteux de leur œuvre ? Comment peut-il arriver qu'ils se rencontrent quelque part, même dans le fond des landes perdues de la Bretagne, même dans les inaccessibles cavernes des Cévennes et des Pyrénées, un bonhomme assez stupide, assez déraisonnable, assez aveugle à ce qui se voit, assez sourd à ce qui se dit, pour voter bleu, blanc ou rouge, sans que rien l'y oblige, sans qu'on le paye ou sans qu'on le saoule ? À quel sentiment baroque, à quelle mystérieuse suggestion peut bien obéir ce bipède pensant, doué d'une volonté à ce qu'on prétend et qui s'en va fier de son droit, assuré qu'il accomplit un devoir, déposé dans une boîte électorale quelconque, un quelconque bulletin, peu importe le nom qu'il est écrit dessus. Qu'est-ce qu'il doit bien se dire en dedans de soi qui justifie ou seulement qui explique cet acte extravagant ? Qu'est-ce qu'il espère ? Car enfin, pour consentir à se donner des maîtres avides qui le grugent et qui l'assomment, il faut qu'il se dise qu'il espère quelque chose d'extraordinaire que nous ne soupçonnons pas. Il faut que par de puissantes déviations cérébrales, les idées de député correspondent en lui à des idées de science, de justice, de dévouement, de travail et de probité. Il faut que dans les noms seuls de Barbe et de Béot, non moins que dans ceux de Rouvier et de Wilson, ils découvrent une magie spéciale et qu'ils voient au travers d'un mirage fleurir et s'épanouir dans Vergoin et dans Eubard des promesses de bonheur futur et de soulagement immédiat. Et c'est cela qui est véritablement effrayant. Rien ne lui sert de leçon, ni les comédies les plus burlesques, ni les plus sinistres tragédies. Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu'un fait unique domine toutes les histoires, la protection au grand, l'écrasement au petit. Il ne peut arriver à comprendre qu'il n'a qu'une raison d'être historique, c'est de payer pour un tas de choses dont il ne jouira jamais et de mourir pour des combinaisons politiques qui ne le regardent point. Que lui importe que ce soit Pierre ou Jean qui lui demande son argent et qui lui prenne la vie, puisqu'il est obligé de se dépouiller de l'un et de donner l'autre? Eh bien non, entre ces voleurs et ces bourreaux, il a des préférences, et il vote pour les plus rapaces et les plus féroces. Il a voté hier, il votera demain, il votera toujours. Les moutons vont à l'abattoir, ils ne se disent rien à eux, et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutons, l'électeur nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit. Oh, bon électeur, inexprimable imbécile, pauvre air, si au lieu de te laisser prendre aux rengaines absurdes qui te débitent chaque matin pour un sou les journaux grands ou petits, bleus ou noirs, blancs ou rouges, et qui sont payés pour avoir ta peau, si au lieu de croire aux chimériques flatteries dont on caresse ta vanité, dont on entoure ta lamentable souveraineté en guenille, si au lieu de t'arrêter éternel badaud devant les lourdes duperies des programmes, si tu lisais parfois au coin du feu Schopenhauer et Max Nordau, deux philosophes qui en savent long sur tes maîtres et sur toi. Peut-être apprendrais-tu des choses étonnantes et utiles. Peut-être aussi, après les avoir lues, serais-tu moins empressé à revêtir ton air grave et ta belle redingote, à courir ensuite vers les urnes homicides où, quelque nom que tu mets d'avance le nom de ton plus mortel ennemi. Il te dirait, en connaisseur d'humanité, que la politique est un abominable mensonge, tout y est à l'envers du bon sens, de la justice et du droit, et que tu n'as rien à y voir, toi dont le compte est réglé au grand livre des destinées humaines. Rêve après cela, si tu veux, des paradis de lumière et de parfum, des fraternités impossibles, des bonheurs irréels. C'est bon de rêver, et cela calme la souffrance. Mais ne mêle jamais l'homme à ton rêve, car là où est l'homme, là est la douleur, la haine et le meurtre. Surtout, souviens-toi que l'homme qui sollicite tes suffrages est de ce fait un malhonnête homme, parce qu'en échange de la situation et de la fortune où tu le pousses, il te promet un tas de choses merveilleuses qu'il ne te donnera pas et qu'il n'est pas d'ailleurs en son pouvoir de te donner. L'homme que tu élèves ne représente ni ta misère, ni tes aspirations, ni rien de toi. Il ne représente que ses propres passions et ses propres intérêts, lesquels sont contraires aux tiens. Pour te réconforter et ranimer des espérances qui seraient vite déçues, ne va pas t'imaginer que le spectacle navrant auquel tu assistes aujourd'hui est particulier à une époque ou à un régime, et que cela passera. Toutes les époques se valent, et aussi tous les régimes, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc rentre chez toi, bonhomme, et fais la grève du suffrage universel. Tu n'as rien à y perdre, je t'en réponds. Et cela pourra t'amuser quelque temps. Sur le seuil de ta porte, fermée aux quémandeurs d'aumônes politiques, tu regarderas défiler la bagarre en fumant silencieusement ta pipe. Et s'il existe en un endroit ignoré un honnête homme capable de te gouverner et de t'aimer, ne le regrette pas. Il serait trop jaloux de sa dignité pour se mêler à la lutte fangeuse des partis, trop fier pour tenir de toi un mandat que tu n'accordes jamais qu'à l'audace cynique, à l'insulte et au mensonge. Je te l'ai dit, bonhomme, rentre chez toi et fais la grève. 28 novembre 1888.
Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sets and know me, but no less valued a property. The sense in war.
À la lecture de la grève des électeurs, ce qui frappe et heurte notre confort, c'est sans doute la pérennité de sa pertinence. Si ce discours n'est plus relayé dans nos journaux, si les noms des dirigeants cités n'évoquent plus grand-chose, il est difficile de ne pas se sentir pris à partie par le tutoiement de Mirabeau. Certes, on pourra toujours se dire pour se distancier que cette posture de critique radicale est stérile, qu'elle ne propose rien, qu'elle ne construit aucune alternative et que l'on doit se détourner de ses raisonnements puérils. Cependant, la série d'élections présidentielles qui nous a conduits de Mitterrand à Sarkozy disqualifie-t-elle l'axiome mirbellien ? Voilà pourtant de longs siècles que le monde dure, que les sociétés se déroulent et se succèdent, pareilles les unes aux autres, qu'un fait unique domine toutes les histoires, la protection aux grands, l'écrasement aux petits. L'absence de solution justifie-t-elle l'abandon du diagnostic ? Mirbeau n'apporte pas de réponse collective, mais nous lègue une vision suffisamment juste pour qu'elle nous dérange encore quelques 100 ans plus tard. Cet article nous fait prendre la mesure du chemin parcouru depuis ce 28 novembre 1888, date de sa parution dans le Figaro, qui passe par la marginalisation de l'abstentionnisme, par la diabolisation de l'antiparlementarisme, par la condamnation définitive d'une contestation de la représentativité et s'achève par l'impossibilité d'interroger publiquement le système électoral. Les mots d'Octave Mirbeau ne pourraient être publiés par aucun quotidien actuel. Malgré la persistance de la pratique, la liberté de parole sur ce sujet n'existe plus. Il sera en effet aujourd'hui impensable de lire dans les colonnes du Figaro ou de tout autre journal à grand tirage, quel que soit son bord politique, un manifeste en faveur de l'abstention. De telles déclarations sont désormais sagement cantonnées aux publications anarchistes, réservées à un cercle restreint, irréductibles et tolérables de marginaux, voire à quelques campagnes d'affichage environnant les librairies libertaires. Aucun éditorialiste digne de ce nom ne saurait endosser la responsabilité d'exciter chez ses respectables concitoyens ce vice que l'on évoque seulement pour le déplorer, le désengagement. À chaque élection tombent les chiffres des moutons noirs, dont chacun est convaincu qu'il n'est pas assez conséquent pour porter sérieusement atteinte à la santé démocratique de notre République. Exception faite des épisodiques percées de l'extrême droite, entièrement imputables à l'incurie des déserteurs d'isoloirs, qui se résolvent à grand renfort de sermons médiatiques par des plébiscites dont chaque électeur amené au bercail de l'exercice de sa pleine souveraineté pourra se féliciter. Il est manifestement exclu d'envisager que derrière cette abstention se cache autre chose qu'une immature inertie. À ce titre, les médias ne sauraient s'intéresser aux motivations de ce peuple aphone. La parole ne peut être donnée à qui la refuse. Une fois les votes blancs magistralement ignorés, on nous annonce qu'un tel est élu à la majorité, majorité qui ne représente jamais plus d'un quart de la population. Se dispenser de voter est devenu difficilement avouable. Loin de représenter spontanément un comportement empreint d'une réflexion et d'un engagement politique, l'abstention n'est jamais perçue comme un acte justifiable par des arguments rationnels, comme une remise en question de l'ordre public, enfin comme une grève, seule à même d'exprimer le refus de participer à une élection dont l'issue ne pourra que nous décevoir. Ce qui n'est plus audible, c'est l'absence de crédit accordé à l'ensemble des prétendants au pouvoir politique. Il ne s'agit pas pour Mirbeau de théoriser le système politique, ni d'esquisser les contours d'une société idéale dans les limbes de l'abstraction, mais d'édifier l'électeur qu'il tutoie et à qui il s'adresse en personne sur l'inanité de sa contribution au grotesque spectacle de la quête au suffrage. S'il n'érige pas d'utopie, c'est parce que le but qu'il poursuit est celui de la levée des obstacles, que l'entreprise d'abêtissement collectif et les préjugés accumulés au cours de l'éducation ont dressé à une perception individuelle et lucide du réel. Mirbeau ne cherche pas à canaliser les espoirs par la construction de nouveaux mythes collectifs, mais à dissiper les brumes du conditionnement qui masque la désespérante reconduction de la loi du plus fort et endigue la révolte. Ici moins qu'ailleurs, même si la tâche assignée est celle du dessillement, il n'est question d'une quelconque velléité d'objectivité ou de modération. Le vol ne nous est pas présenté comme un sous-produit de la politique, mais comme le seul et unique objectif des politiciens. Et par-dessus le marché, ce qui est beaucoup plus absurde, comme la source principale du respect que leur vouent les électeurs. Il ne serait peut-être pas de bon goût d'évoquer à cet endroit l'admiration dont Bernard Tapie a pu bénéficier dans les quartiers populaires. L'exagération, la mauvaise foi assumée, la subjectivité et la dérision sont les armes employées par l'écrivain pour attenter à la respectabilité des nantis et des institutions. Elles seules permettent la désacralisation à même de délivrer l'individu de l'intériorisation de la domination.
Entendez-vous ce chant que porte la nuit? C'est une rumeur emplie du jour d'un élan vers celle qu'il ne connaît pas. Un amour possible que si tu le chantes. Dans le bazar du monde, des incertitudes, tu sais, les dimanches quand tu flippes à 16h43. Toute cette folie que tu tentes d'expliquer en vain. Tu ne peux que chanter ces mots. C'est la nuit qu'elle enfante avant l'aube. Pour se relever, sortir des angoisses et poursuivre sa vie. Des petits matins gris et des grands jours bleutés de l'été. C'est une promesse tout habillée de noir que son chant illumine au soir de sa vie. C'est la dame en noir. C'est celle d'à côté de chez toi. Ou bien cette passante. Ou bien n'importe qui. Devant les yeux de chacun, l'étendue gracieuse de nos intérieurs. Il existe un soleil, l'extérieur comme un miroir, comme en écho, des couleurs, des odeurs, des formes et des fonds, des êtres vivants, gracieuse composition, des couleurs, des odeurs, des formes et des fonds, des couleurs pour nos différentes saisons, des odeurs pour nos émotions, des formes et des fonds pour la communication. Devant chacune, chacun, l'étendue saline de la mer. Dedans chacune, chacun, deux ou trois façons de faire. Il existe un soleil qui brille pour tous. Il existe un endroit où aller tout en paix. Il existe une force ancestrale qui nous pousse à murmurer nos rêves, à l'oreille des lucioles qui éclairent nos pas. Il existe un soleil pour chacune, chacun. Il existe des formes, il existe des mots, il existe des notes, il existe des formes, il existe des fonds. Il existe mille et un soleils pour tout un chacun. Les belles heures, le café La Bohème, sentinelle du vieux pont, veille sur le fil du temps. Bleu nuit, jaune doré, rien ne manque, tout vit, tout est là. Maintenant, ton sourire, ailleurs peut-être, marque le temps, sur les murs de l'esprit, trace unique de ton passage sur cette terre. Ton sourire, le murmure sur ta bouche, ton sourire, un murmure sur ta bouche. Un 6 milliardième de possible et d'impossible bonheur, tous reliés à nos pensées graffiti. Graffiti. La beauté s'appelle Pluriel. Le mouvement perpétuel, dit mouvement des marées, aide aussi bien le nageur à gagner la rive qu'à se noyer. Graffiti. Les usagers de la vie sont surpris en découvrant un beau jour les messagers de leur mort. Pour eux, c'était toujours les autres qui mouraient. Alors dans l'immédiat, ils ne se sentaient pas, comme on dit aujourd'hui, concernés. Graffiti. L'égaré demande son chemin. L'affolé demande l'heure, la minute ou l'année. Le mendiant l'aumône, le condamné grâce. Et certains ne demandent rien. Graffiti. Un homme à la mer, une femme à l'amour. Signé la veuve du capitaine. Graffiti. Aucun blasphème ne blesse femme. Au contraire, il les vénère et les libère. Graffiti. Nul n'est insensé qui ignore la loi. Graffiti. Quand j'accueille Lucifer à cheval, j'invite toujours Lucifer à repasser. Signé le forgeron de la cour Dieu. Graffiti. Enfin, tant bien que mal nous vivons, Dieu merci, Dieu, il n'y a pas de quoi. Graffiti. Il y a des gens qui s'amusent d'un rien. Faites comme eux, amusez-vous de Dieu. Satan est l'âme damnée de Dieu. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi, dit l'homme à qui il n'arrive jamais rien. Les technocrates de l'avenir seront sans doute les cancres de la vie. Et surtout, quand vous citez un texte con, si c'est indispensable, n'oubliez pas le contexte. Graffiti. Un beau jour, j'ai pu payer les droits d'auteur aux auteurs de mes jours. Une fois est coutume. Le premier jour, Dieu n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et cette insomnie, la lune encore en rit. Il n'y a pas 5 ou 6 merveilles dans le monde, mais une seule, l'amour. Graffiti. Quand les éboueurs font grève, les orduriers sont indignés. Graffiti. L'enfant qui verse, histoire de rire, son encrier dans un bénitier est plus drôle est plus vrai que Luther qui disait avoir jeté le sien à la tête du diable. Graffiti. Il n'y a pas de fauve chauve, mais les humains atteints de chauvinisme portent perruque de lion. Graffiti. L'architecture d'aujourd'hui n'a pas de fleurs à sa bétonnière. Graffiti. La révolution est quelquefois un rêve. La religion, toujours un cauchemar. Graffiti. L'histoire va vite, mais les historiens traînent. Graffiti d'Adam. Je ne suis pas le premier venu. Il s'aimait. Il riait. Il riait en disant « Je t'aime ». Il riait. C'était d'eux-mêmes. Tout en allongeant le pas dans les rues de la ville, je lis les graffitis de mon esprit. Ce que je lis sur les murs, ce que je vois dans l'invisible, ce que je vois dans l'autre. Sait-on jamais? Eux disent savoir toujours. Ils disent la terre, la lune, le cosmos, l'infini, le bien, le mal et les origines de la vie. Ils disent tout, comme si de rien n'était. Mais quand l'appréhension de l'incompréhension les prend, ils prennent peur. Et cette peur renverse la vapeur de leurs idées. Alors, ils s'arrêtent à la première gare, à la première station standard. Et c'est toujours le même horaire, la même horreur, celle du vide. Alors, ils font leur plein d'essence divine, démarrent à nouveau et s'en vont de plus en plus vite pour arriver de moins en moins loin. Sait-on jamais? Je rêvais que j'étais bouteille vide, flottant au fil de l'eau et respirant par le goulot. Une barque sur 20 avec de joyeux canotiers. L'un d'eux, facétieux, tapait sur la bouteille pour qu'elle s'emplisse d'eau, s'enfonce et disparaisse. j'étouffais. Me réveillant, je me levais, cherchais du regard une bouteille vide, la trouvais et la regardais attentivement. Essai d'explication, la veille de ce rêve et un beau matin, je nageais dans la Marne, au Péreux, les pieds pris dans les herbes. J'avais bu la tasse, je suffoquais. Comme j'allais assez péniblement regagner l'autre rive, de joyeux bambocheurs dans un canot, sans doute les mêmes, m'aperçurent et l'un d'eux, histoire de rire, m'asséna un innocent et brutal coup de rame sur la tête. Je suffoquais. Et c'est un petit peu noyé qu'on me ramena à bon port. La musique voyage, comme la peinture, les cigognes, les immigrants, comme les nouvelles des journaux, arrachées aux passants par le vent, qui s'en vont vieillir instantanément dans les poubelles du temps qui voyage, emporté par le vent qui voyage, déporté par le temps. Carmina Burana. La musique voyage, s'en va, revient. La musique, c'est le soleil du silence, que jamais ne se tait tout à fait, du silence qui chante ou grince en image. Dans l'armoire ou la mémoire des gens. Mais parfois la musique reste là, inécoutée, déjouée. Alors s'en va très vite, mais revient de loin, tout doucement. Tout doucement. Carminé. Buriné. Et ceux qui faisaient la petite bouche, il n'y a pas si longtemps, font la grande oreille maintenant. Chanson à boire, à rire et à pleurer. Var Carmina Buravina. La musique est enfermée dans une caisse. Ils tapent de toutes leurs forces et sans cesse. Tempo de tous les temps, frontières effacées sur les atlas des sons, sur les cartes à jouer, les plus vieilles chansons, musique à 2, 3, 4 ou 12 et autres temps, musique à haute et intelligible voix, mais hors des quatre dimensions, des casiers à musique, musique à cappella, hors de toutes les chapelles, musique jamais sévère, mais toujours grave et belle, nom des sons, son des noms, un diable rouge, mais fort instruit, très cultivé, soudain sort de la boîte à savoir, du mélomane mal à l'aise, qui ne sait plus où il en est, avec cette musique hors de sa portée, voix d'autres pays, voix d'autres siècles, oubliée, dispersée, retrouvée, réunie. Gérard Guillot, dans Le Monde, disait « Ce Jacques Prévert, voilà qu'il devient doucement, mégot après mégot, un classique de la littérature française. »
Prétend qu'il subsiste encore sur ce que chacun se plaît à nommer notre terre, des individus, car tel est le nom générique des êtres mâles ou femelles dont est peuplée la soi-disant planète désignée ci-dessus, dont la préoccupation majeure et les intérêts les plus affirmés sont de manger bien, de boire froid, de se garder le ventre insensible, de se divertir une partie du temps et de se reproduire, volontairement ou non, à intervalles variables et dans de bonnes conditions. Que cela soit vrai ou non, ce n'est pas ce que cette chronique apériodique se propose de déterminer, mais le renseignement provenant de gens en général bien informés et dont le nom à lui seul est une garantie suffisante. Il apparut au menteur que, si réduit que fût le nombre des individus susmentionnés, il méritait de se voir consacrer quelques études fouillées du genre exhaustif en raison de leurs remarquables particularités. Aussi, supposant vraie l'assertion qui précède, je voudrais tenter de dégager certaines des conditions et des procédés susceptibles de leur permettre une survivance rendue. Scientifiquement parlant, intéressante par le nombre minime des sujets qui raisonnablement peuvent être considérés présentant les caractéristiques définies plus haut. Les recherches approfondies auxquelles je me suis livré depuis que j'ai entrepris de jeter quelques lumières sur cette classe individu tentent à prouver sa décadence progressive. Et il semble bien qu'il s'agisse en effet d'une race en voie d'extinction, analogue à celle des Bushman ou des indigènes de l'Australie avant la croisade. Le problème crucial consiste donc à livrer au lecteur des temps modernes celles des solutions rencontrées qui m'ont paru de nature à conserver au moins des échantillons de cette faune. Ne tentons pas d'analyser les causes de sa dispersion lente, elles sont trop évidentes. Il y a la lecture des ouvrages de Jasper, de Gabriel Marcel, d'Alexandre Astruc et de Bureau des tarifs de la SNCF. Cause moderne tendant plutôt à l'aggravation d'un état de fait. La multiplication des médecins, fakirs, guérisseurs, voyants et autres rebouteux, facteur sans nul doute beaucoup plus important dénoncé par des esprits lucides, Molière, Georges Cugnot, les atteintes à la liberté d'exercice de la dernière des fonctions rémunérées, celle de reproduction, virus de Richard Parker par exemple. Il existe un grand nombre d'autres causes, spécifiques et souvent locales, mais aucune n'est réellement dirimante, car il a tôt fait de s'établir entre leur développement et les individus visés un équilibre qui aboutit très vite à une symbiose. La vraie, la plus importante, la seule à proprement parler déterminante est la guerre, ou ce qui revient au même, l'extinction du militaire. L'inutilité du militaire est en fait connue que nul n'ose plus discuter en notre siècle de dialectique progressifiante. Cependant, on se borne souvent à lui accorder un caractère neutre, alors qu'il est strictement négatif. Et par une extension insensée, on en vient à adopter à son égard une attitude presque bienveillante. On lui donne 14 Mercedes à compresseur pour occuper Vienne et promener ses aides de camp quand il n'aime pas trop les femmes, ou les femmes de ses aides de camp lorsqu'ils aiment les femmes. On lui demande son avis sur des choses auxquelles, de toute évidence, il n'entend rien. Plan d'aide à des pays dévastés par ses soins, par exemple, etc., etc. D'ailleurs, il me faut reconnaître que l'on s'aveugle de la sorte qu'à l'égard de militaires moins nombreux que les autres et différenciés par le port d'ornements protecteurs symboliques, dans le choix duquel il entre une bonne part de magie, telles que les feuilles de chêne en or, les étoiles et les tresses jaunes que l'on appelle galons, par contraction du patronyme Ganelon qui signifie traître dans tous les pays de langue française. Le militaire a poussé l'art du mimétisme à un degré très avancé et se présente sous des aspects très différents selon les moyens qu'il se propose d'employer pour réaliser son but éternel, qui est l'anéantissement de la race définie au premier alinéa de ce chapitre et que nous considérons comme idéal. Le militaire, en temps de paix, peut aller jusqu'à épouser la fille d'un représentant mâle de l'espèce et à séduire les adolescents pour les attirer dans les maisons d'illusion nationale nommées Saint-Cyr, l'école de guerre ou Polytechnique. Le militaire occupe une partie de son temps à soigner sa propagande et ses déguisements, qui comprennent obligatoirement, lorsqu'il appartient au grade supérieur, le costume complet de père du peuple, la panoplie du libérateur et ou la tenue civile stricte avec microphone. Une monographie complète du militaire nous mènerait très loin et sortirait du cadre noir, entre parenthèses, de cet article. Ceci me fait penser que j'oubliais un autre exemple de leur tour, créé à Saumur, contre-producteur de vin connu, une école de cavalerie, pour que l'appréciation de vin conduise insensiblement à l'indulgence pour l'école. Aussi, je me tenterai même pas de l'esquisser, réservant cette étude pour mes vieux jours, s'ils m'en laissent. D'ailleurs, la seconde partie de la présente tentative amorcera, par de force choses, un rudiment de classification. Le militaire étant donc reconnu l'élément essentiel d'anéantissement de l'homme, idéal type, quels sont les moyens rationnels? Le DDT n'étant malheureusement révélé inefficace en dehors de la suppression à laquelle il a abouti de l'emploi malgré tout subalterne de garde-mythe. De destruction ou de compression du militaire, l'ensemble des méthodes retenues pourraient être présentées sous le titre « Petit manuel d'anéantissement du militaire ». Grosso modo, il y a 8 types de militaires, dangereux, 3 types anodins et 2 types inoffensifs. Les 8 dangereux sont le maréchal et assimilé, le général, le colonel, le lieutenant-colonel et assimilé, le commandant, le capitaine, le lieutenant, le sous-lieutenant. Les 3 anodins sont l'adjudant, et assimilé, le sergent, le caporal. Les 2 inoffensifs sont le soldat de première classe, le soldat de deuxième classe. Les assimilés sont des types analogues, modifiés pour vivre dans l'eau ou dans la cavalerie. Par exemple, le grand amiral correspond au maréchal et le maréchal des logis correspond au sergent. On remarquera l'ingénieuse compréhension de toutes ces dénominations, destinées à jeter le trouble et la confusion dans les esprits. Remarquons en passant qu'une mesure générale employée contre tout membre du groupe 1 ou officier consiste à l'appeler monsieur et à le mettre dans une pharmacie où il servira chacun son tour des ordonnances et à tout seigneur tout honneur, commençons par le premier.
Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green is the color of the sparkling corn in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time, that's the time I love the best. When we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her, uh-huh. When I see her, uh-huh. That's the time, that's the time I love the best. Without thinking, uh-huh, of the time when I've been low. Oh, yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise. In the morning when we rise. That's the time I love the best.
Donc commençons par le premier, Destruction du maréchal. Quoique le maréchal ait longtemps paru indestructible et destiné en principe à mourir de vieillesse, il y a divers moyens peu connus d'en venir à bout. Petit A, lui remplacer son bâton spécial par un bâton d'agent. Petit B, arguer du fait que le pluriel de un maréchal c'est des maraîchers et le renvoyer cultiver son jardin. Petit C, lui arracher la moustache et brûler tous les timbres qui le représentent. Grand B, destruction du général, le laisser faire une guerre et la perdre, hein. Auquel cas il passe dans la catégorie supérieure, une fois qu'il sera maréchal, on le détruira comme le maréchal ordinaire. Ce procédé dit du jaguar casqué peut s'appliquer à tout officier de carrière, mais il est lent et coûteux. Petit B, de même que le pluriel de maréchal, c'est pas en réalité celui que l'on donne couramment, le pluriel de un général, c'est dégénéré, il suffit d'en prendre deux à la fois pour pouvoir les enfermer par paire dans des asiles de fous. L'ennui, c'est qu'il y a toujours un nombre impair de généraux. Ils connaissent le goût. Petit C, laisser les autres faire une guerre et lui dire qu'il l'a gagné, puis lui allouer les 14 Mercedes avec le pont arrière scié en trois dans un pays montagneux. Petit D, lui donner à commander un bataillon d'élite composé de clients du club de l'Orienté et de ceux des lecteurs du temps moderne qui payent leur abonnement. Petit E, faire comme s'il n'existait pas et le snober ouvertement à la revue du 14 juillet. Petit F, le nommer président du conseil d'administration ou gouverneur des colonies et demander au Viet Minh de le liquider en douceur. Petit G, lui envoyer une vision et le laisser devenir roi des carmélites ou empereur des jésuites. Ce dernier procédé n'est qu'une mesure de neutralisation temporaire, parce que le pape lui envoie une dispense sitôt qu'il s'agit d'aller déverser de la bombe atomique sur la poire du voisin. Grand C, destruction du colonel. Le colonel étant le plus souvent muni d'un nom qui se dévisse, on l'anéantira par les moyens mis en œuvre par les vaillants ouvriers des usines aéronautiques pour bousiller les filetages, acide, potée d'Emery, coup de burin, trait de scie, etc. Le lieutenant-colonel se détruit de la même façon que le colonel, avec encore moins de respect. Le colonel FFI, qui pullule en cas de résistance, est facilement amadoué au moyen de traction avant transformée en body traps. Grand D, destruction du commandant. Le commandant est un gradé plus très usité. En général, on saute tout de suite de lieutenant à colonel à la faveur d'une guerre de guérilla, d'où l'utilité de la formule transitoire lieutenant-colonel. On n'emploie plus guère le commandant que sous la forme médicale du médecin-major. On le détruit en lui donnant 729 ablations de la jambe gauche à faire en une nuit avec une scie cassée. À la suite de quoi, il s'engage dans l'aviation et se tue lui-même sur un bloc réformé de la guerre de 70. Grand E, destruction du capitaine. Le faire passer insensiblement à la catégorie capitaine des pompiers et allumer des incendies partout, il meurt dans un. Grand F, destruction du lieutenant et du sous idem. Lui faire avaler des petits bâtons noueux ou sticks dans lesquels ils sont absolument désemparés et qui représentent l'avantage supplémentaire de leur perforer l'estomac avec des complications. Grand G, destruction des trois anodins. Les rendre neurasthéniques en les forçant à regarder toute la journée dans des canons d'armes à feu, rouille, rongés par la rouille, suivant le grade, on choisira une mitrailleuse, un fusil mitrailleur ou un simple mousqueton. Enfin, grand H, destruction des deux inoffensifs. Enfermer le soldat de première ou seconde classe dans une pièce tranquille, en compagnie d'un costume civil, et rouvrir la porte au bout de 45 secondes. Le résultat est immédiat. Disparition complète du militaire, qui peut être définitive à la condition que les représentants des 11 autres types aient été supprimés au préalable. Les méthodes exposées ci-dessus font naturellement l'objet de brevets dont l'analyse complète sera publiée dans chez CH Lavoiselle et compagnie. Il est malheureusement à craindre qu'elle ne rencontre une certaine opposition de la part des milieux bien pensants. En prévision de cette éventualité, le menteur a mis à l'étude un plan dit plan de métropolitain détaillé dont l'application entrera en vigueur dès que la décision aura été prise.
Thank you.
le prix d'un parlementaire. Le problème que l'on se pose parfois, c'est la valeur d'un parlementaire. On dit en effet couramment « un tel est à vendre » ou « un tel est vendu », mais on omet de préciser le prix. Est-il possible, à partir de quelques éléments dont nous disposons, de fixer un barème approximatif qui permette à l'usager de s'y retrouver? Le vague qui règne est bien gênant, et l'étranger, le touriste que nous essayons d'attirer sur nos territoires, peuvent avoir envie d'emporter chez eux un souvenir autre que la Tour Eiffel. La Chambre des députés est en passe de devenir, hors de nos frontières, aussi prisée que notre premier monument d'exportation. Pourquoi n'en pas profiter et ne pas céder quelques-uns de ses pensionnaires? On en retrouvera toujours assez. En outre, les éventuels acheteurs s'en lasseront vite et nous les réexpédierons pour rien. Belle occasion de montrer un fructueux petit commerce. On signale dans la jurisprudence récente une évaluation intéressante, mais elle ne laisse pas que de nous plonger dans l'inquiétude. Le jury des assises n'a-t-il pas récemment acquitté la femme de je ne sais quel fort en gueule d'Orléans, chevalier je crois, qu'elle avait oxy. On s'est à l'occasion répandu sur les vertus de la victime, présentée comme par les journaux comme un mufle de belle grandeur. Est-ce que les juges sont intelligents? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'ils ont attribué à la peau du personnage par leur décision une valeur rigoureusement nulle. Peut-être ont-ils exagéré, ou auraient-ils tenu compte de ce que, mort, il n'était pas cessible qu'une fois. Arrêtons-nous sur cette remarque. Elle est caractéristique. Il est excessivement remarquable que le fait d'être déjà vendu n'empêche jamais le parlementaire vivant d'être encore à vendre. C'est un des rares cas commerciaux de cessibilité permanente. Et quoi que l'on croie, il ne s'ensuit pas pourtant que l'acheteur dispose d'un droit seulement symbolique sur l'acheté, car il le tient dans une certaine mesure sous sa coupe et se fait rendre des services. La vente d'un parlementaire est, on le voit, une opération financière complexe et met en jeu tout un code plus ou moins occulte, assez ridiculement tenu secret, que les intéressés, bien que l'homme de la rue, en connaissent les moindres détails. Il est assez symbolique que la seule évaluation récente de la valeur du parlementaire provienne de la justice. Quel arbitre mieux placé, en l'occurrence, qu'un juge, invendable par définition, puisqu'il n'existe pas, à notre connaissance, de monnaie divisionnaire assez petite pour qu'on puisse l'acheter sans y perdre. Il y a bien l'agent, mais l'agent ne se laisse pas faire, et peut-être, au fond, vaut-il mieux garder ces 11 agents que de les échanger contre ce seul juge. Mais le temps n'est pas de philosopher. Il nous faut éclairer le lecteur que l'on gruge assez souvent pour lui fournir en compensation un conseil utile. Quel prix devez-vous donc mettre à votre parlementaire? Éliminons d'emblée cette idée que l'on a intérêt à acheter le parlementaire selon le procédé de la location-vente ou à crédit. En réalité, dans ces conditions, le parlementaire ne vous appartient jamais. Le procédé est astucieux. Un individu, encore parlementaire, se présente à vous et vous propose pour rien, car il est rusé, de l'élire. Et l'ayant élu, vous seriez en droit de vous dire que c'est votre parlementaire. Or, il vous prouve immédiatement le contraire en faisant voter quelques surtaxes progressives qui, sous couvert de l'acheter définitivement, vous ruinent et n'aboutissent à rien puisque, attention, là est l'astuce, il s'arrange toujours par le moyen de déficit pour le faire annuler la vente. Et miracle de la combine, c'est vous qui vous retrouvez en faillite. Le jeu est joli. Il l'a cependant, mais le parlementaire a plus d'un tour dans son sac et il a su s'entourer de la menace de châtiments si sévères, toute propagande en faveur d'une grève de l'impôt qui ruinerait immédiatement ses machiavéliques combinaisons, que le client se trouve ou croit se trouver assez désarmé. À notre avis, il n'y a en réalité de la part du client qu'un peu de paresse, d'inertie qui ne saurait tarder à passer. Nous étudierons à cet effet de nouvelles méthodes et ferons part aux lecteurs de nos solutions. Le vrai moyen d'acheter un parlementaire, c'est la méthode directe. Et à ceux qui nous demandent « faut-il l'acheter sur pied ou abattu ?», nous répondrons « choisissez la seconde solution ». Ne nous laissons pas se faisant leurrer par la décision, chevalier, il s'y manifeste d'un sentiment d'envie de la part des robins, un désir de ramener à leur propre valeur quelque chose d'un peu plus précieux tout de même. Chevalier abattu valait encore cher. Fixons des chiffres. Personnellement, nous considérons comme assez bon marché tout parlementaire mort qui nous sera offert pour une somme d'un à 5 millions selon grosseur. Cela peut paraître dispendieux. En réalité, un calcul du niveau de l'école primaire vous mettrait immédiatement à même de vous apercevoir que vivant, c'est encore plus ruineux.
On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. »
Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Vous étiez dans Démo d'ici, Démo d'ailleurs. Vous avez entendu les voix de Nathalie Vautier, Alain Justignani,
de James Fontaine,
pour servir les textes de Boris Vian, Jacques Prévert, Henri-Georges Taureau, Octave Mirbeau, Cécile Rivière
et James Fontaine.
Vous avez entendu les musiques de Georges Moustaki, les compilations all-time des vieux films Dead Kennedys, Verdi, Nabucco, Le cœur des esclaves, In the Mood for Love de Shigeru Umbeke Shaye, Nick Cave, I Need You, John Baez, Colors, Eric Clapton, Hey Hey, The Dave Brubeck Quartet, Take Five. Vous avez toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. À la technique, notre fabuleux sondier Christophe Becquereau et mes invités. Alain Justignani, merci beaucoup. Et Nathalie Vautier.
Merci James.
Bonsoir, prochaine émission. Jeudi, dernier jeudi du mois de mars, on viendra refaire un point sur la situation globale de notre monde, vue par des auteurs qui nous indiquent peut-être une marche à suivre un peu différente que celle que nous proposent les institutions. À bon entendeur, salut, soyez forts.